les conférències de Radio Languedoc. Début de février de 2013, se débanèrent en Pézenas deux journées de rencontres sur le PCI, patrimoine culturel immatériel. Aquelles journées, manejades par le collectif Patrimoine et Création, en partenariat avec le CIRDOC de Béziers, recampèrent cercaires autour de terrain. Escambièrent ses pratiques et réflexions sur la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel occitan. Vous préparez d'écouter la première partie de d'aquelles interventions qui se débanèrent le 17 et 12 février de 2013. Fugèrent enregistrées au Théâtre Molière de Pézenas.
Collectif Patrimoine et Création est un rassemblement de chercheurs, de praticiens du PCI, d'artistes, rassemblés sous l'impulsion de Claude Alranc, en partenariat avec le CIRDOC, afin de mettre en place un pôle de compétences visant à transmettre, à rassembler, à créer, à mettre en place un inventaire, à diffuser, revitaliser le patrimoine culturel immatériel, dans le souci de faire fructifier, de bien faire fructifier la recherche et la création. Donc, nous remercions pour commencer nos partenaires qui nous ont permis la tenue de ces journées. Donc, tout d'abord, la commune de Pézenas, le CIRDOC, l'hôpital local de Pézenas et aussi la Rampetio. Avant de donner tout d'abord la parole à Monsieur le Premier Adjoint puis à Benjamin Assier, je souhaitais rappeler le contexte de ces journées. Cela faisait du sens pour ce collectif de chercheurs et de praticiens de lancer leurs travaux ici aujourd'hui à Pézenas afin de profiter d'un ensemble extrêmement cohérent, extrêmement dense autour du à partir des festivités de carnaval. Donc voilà, je tiens à nouveau à vous remercier pour votre présence et je vais passer la parole à Monsieur le Premier Adjoint.
Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chercheurs, artistes, auditeurs, soyez les bienvenus à Pézenas. Je vous prie de bien vouloir excuser d'abord Monsieur le Maire, Alain Vogel-Singer, Christiane Pénaroubia, adjointe déléguée à la culture et à la communication, et Frédéric Gourdon, notre directeur des services culturels, qui sont victimes de la grippe, ainsi que d'autres, si j'ai bien compris. Au nom de Monsieur le Maire, de son conseil municipal et de la ville de Pézenas, je remercie chaleureusement Monsieur Bernard Assier, directeur du CIRDOC, ici présent, Eliette Guin et les membres du CIRDOC, Claude Alran et le collectif Patrimoine et Création d'avoir choisi notre ville pour y tenir leurs rencontres inaugurales autour des enjeux et de la recherche-action sur le patrimoine culturel immatériel en Languedoc-Roussillon. Je regrette que M. Christian Autain, chef de la mission ethnologie à la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la Culture, notamment en charge de la question du patrimoine culturel immatériel, ne puisse être avec nous aujourd'hui. Cet événement s'inscrit tout naturellement dans l'ouverture du carnaval de Pézenas par les festivités de la Saint Blasi, saint patron de la ville. Si Pézenas est riche de son patrimoine architectural, témoin de son histoire, elle perpétue ses traditions populaires en véritable patrimoine vivant. Notre poulain, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, en témoigne déjà. Les fêtes de carnaval, proposées par la ville en partenariat avec les associations, les artistes et un public chaleureux, annonce le printemps, ranime la ville et donne vie et sens à notre patrimoine. C'est l'occasion de tisser du lien social, de rapprocher les générations, d'éduquer le jeune public, de valoriser l'expérience de nos anciens autour des pratiques artistiques et ludiques des traditions populaires. Nous vous invitons donc à entrer dans les danses, à suivre le poulain et vous souhaitons de tout cœur un séjour agréable à Pézenas et des rencontres fructueuses. Je vous remercie.
Donc nous passons la parole à Benjamin Assier, directeur et conservatoire du CIRDOC.
Merci, monsieur le premier adjoint, messieurs et mesdames. Alors, avant de représenter Cirdoc, je représente quand même un peu indirectement aussi plusieurs collectivités, particulièrement la région Languedoc-Roussillon. Et donc, je vous prie d'excuser Marcel Matteau, qui est le président de Cirdoc, mais aussi l'élu en charge au Conseil régional Languedoc-Roussillon des langues et cultures occitanes et catalanes, mais qui suit avec attention cette dynamique, hein, et la région également a réaffirmé récemment, voilà, sa volonté dès 2013 de mettre en place des dispositifs pour pouvoir avancer sur la recherche et la diffusion. Donc, des questions liées au patrimoine culturel immatériel de la région. Et puis également un peu aussi la ville de Béziers, voilà, qu'on peut aussi remercier. Demain sera jouée Sainte-Force ici. La ville de Béziers a pris une part active en faisant donc une commande d'écriture à Claude Alranc. Alors évidemment, je suis honoré d'ouvrir symboliquement aux côtés de Monsieur le Premier Adjoint ces rencontres inaugurales, même si je ne me sens pas forcément très très légitime sur la question du patrimoine culturel immatériel. En tant que conservateur des bibliothèques, j'appartiens à un corps de métier qui a une représentation spécifique de la question patrimoniale par mon cadre de formation, par les politiques nationales et territoriales mises en œuvre dans la filière dite du livre et de la lecture et qui oriente forcément notre action quotidienne dans un certain sens. Et pour l'instant, effectivement, la question du patrimoine culturel immatériel est quasi absente donc de ces politiques-là. Et puis aussi, sans doute, un héritage culturel à ce corps de métier, et donc des rites et des mythologies qui se transmettent au sein donc de notre communauté spécifique, le monde du livre et de la lecture, et entre autres, mais non des moindres, l'identification entre culture et écriture. Si je reprends le cadre de formation, donc, et puis derrière c'est aussi pour aborder la question de la place du Cirdoc comme partenaire administratif, politique de cette dynamique, la question du patrimoine est déjà marginale dans la filière des bibliothèques. Notre métier est aujourd'hui essentiellement orienté sur la question de la diffusion de l'information. Nous, on préfère plutôt problématiser ça comme la socialisation des savoirs, ce qui déjà nous permet de rentrer un peu plus dans le champ d'action du patrimoine culturel immatériel. Notre compétence en patrimoine demeure héritière de la tradition bibliophilique européenne. Le livre, le parchemin, la gravure, la vidéo, l'enregistrement sonore sont finalement dans nos mains de bibliothécaires des objets artistiques et scientifiques et non pas des lieux de culture vivante. Et notre attention se focalise essentiellement sur le format du support, la gestion de son vieillissement et les conditions de sa communication. J'ai été surpris, j'ai rapidement regardé nos discours professionnels. Le mot de transmission n'apparaît jamais. On parle de communication, mais le mot de transmission n'existe pas chez les conservateurs du patrimoine écrit ou plus généralement le monde de la documentation. La place du Cirdoc est d'emblée originale dans ce monde-là. Moi, je l'ai vécu en tant que professionnel et je le donne un peu comme un témoignage parce qu'il change forcément nos conceptions professionnelles. D'abord, développer un établissement public chargé de la sauvegarde et la diffusion de l'héritage culturel occitan oblige à inventer une politique de toute façon originale. Originale par l'espace d'action, l'espace de la langue occitane est en incohérence complète avec l'espace administratif et politique. Ou ça, on pourrait penser que c'est plutôt le contraire. Et original surtout par la transversalité, la sauvegarde et la diffusion des supports sociaux et culturels d'une langue vivante touche à la fois à la question de la documentation, du patrimoine écrit, qui lui-même administrativement c'est quand même trois filières et trois politiques différentes, les bibliothèques publiques, les archives et la documentation scientifique de l'enseignement supérieur, le patrimoine dit oral, un secteur qui est essentiellement structuré pour l'instant autour du réseau des musiques et danses traditionnelles qui a ses propres codes et ses propres actions, de l'archivage audiovisuel, etc. Et bien sûr de la question, elle aussi transversale, du patrimoine culturel immatériel qui lui, administrativement, est lié à l'ethnologie. Si j'aborde la question d'un point de vue administratif, c'est qu'elle est importante. Le patrimoine est une construction politique, on le sait aujourd'hui, des historiens se sont penchés sur la question, les historiens de la culture. Le patrimoine est une invention française au départ, qui ensuite s'est socialisée et mondialisée, mais qui est une conception politique. Et on sait aujourd'hui que cette notion et que cette existence patrimoniale dans notre civilisation est liée à des enjeux politiques et de cohésion sociale. La révolution, le vandalisme, et puis progressivement, la désindustrialisation pour le patrimoine industriel, etc. Or, aujourd'hui, moi je suis plutôt surpris comme professionnel par des travaux récents. Existe aujourd'hui une branche de sociologie qui est la sociologie du patrimoine, qui analyse la chose non plus d'un point de vue historique, mais d'un point de vue sociologique, et notamment les travaux de Nathalie Heinisch, qui finalement a prouvé que ce qui était structurant pour faire un patrimoine, c'était l'inventaire. Donc un travail administratif et scientifique, mais quand même administratif, et que finalement la question de l'inventaire, de structurer cet inventaire, c'était aussi des choix qui ensuite orientaient ce qu'était ce patrimoine dans la société. Et là-dessus, par expérience personnelle, nous avons un problème, nous, au CIRDOC, en tant qu'organisme chargé du patrimoine occitan, c'est que les cadres d'inventaire, qui sont un consensus national pour la plupart, ne prévoient rarement le champ de la langue. Donc, ce qui veut dire que le patrimoine occitan n'existe pas. Voilà. Pour vous donner un cas concret, c'est parce qu'on s'est intéressé aux peintures murales religieuses de la Renaissance où apparaissait l'occitan. Donc, en soi, on est bien sur un patrimoine en langue occitane. Ce patrimoine n'existe pas parce que ces peintures murales sont référencées, sont thésaurisées sur le plan artistique, historique, etc. Mais on est incapable de savoir où sont ces peintures murales qui contiennent l'occitan, les textes qu'ils contiennent et pourquoi ils contiennent l'occitan. Et lorsque j'ai posé la question au service de l'inventaire, on m'a répondu, le problème, c'est que notre base de données ne prévoit pas d'indiquer des informations vis-à-vis de la langue. Donc on est bien... ça va plus loin qu'un impensé, le patrimoine occitan. C'est presque un interdit politique et administratif. Autre choc culturel dans l'élaboration d'un projet comme le CIRDOC, le poids symbolique de l'institution auprès de certains groupes sociaux ou communautés culturelles, on l'appellera comme on le voudra, et donc la nécessité de partager son autorité en tant que professionnel de la culture avec nos utilisateurs. Et ça, c'est pas courant dans le cadre des politiques culturelles et des politiques patrimoniales. Lorsque les chercheurs ici réunis donc ont sollicité le CIRDOC pour être le partenaire politique et administratif, j'avoue que... À la fois, on était ravis de cette occasion, puis on se sentait pas forcément très très compétent. Pour moi, la question du patrimoine culturel et immatériel était une affaire d'ethnologue, comme je l'ai dit. Il y a bien un rattachement administratif à l'ethnologie. Et c'est donc vers une université ou un laboratoire de recherche qui, de mon point de vue, il fallait se tourner. Mais le projet collectif, ici réuni, a mené la question de la pratique, la question de l'inscription dans le terrain en termes de restitution, de diffusion, de transmission, non pas transmission à type pédagogique, mais véritablement transmission de savoir-faire, de représentation, de signification élaborée communautairement, historiquement. Comme médiathèque, donc le CIRDOC, que nous concevons CIRDOC au sens large de lieu de toutes les médiations, nous avons vu finalement à la fois le soutien qu'on pouvait porter, le soutien donc pour constituer un outil documentaire original adapté aux besoins de ce collectif de recherche, mais également pour susciter de la création et de la réactualisation, mais également parce que nous, finalement, on allait changer notre façon de faire notre métier au-delà de la question et des sujets que vous alliez toucher, vous, en tant que chercheur, puisque finalement, je réalisais que notre patrimoine, que ce soit le patrimoine littéraire, le patrimoine historique qu'on conserve, le patrimoine musical, tout ça était finalement géré de notre part, non pas comme un patrimoine, mais comme une collection scientifique ou historique, mais qu'on ne suscitait pas vraiment un accès, une utilisation de ces œuvres, de ces pensées, de ces idées par la société actuelle, la société globale. Et que finalement, une œuvre imprimée du XVIIe siècle peut avoir une vie autre aujourd'hui que simplement l'étude par un historien de la littérature, etc. Et que peut-être notre rôle en tant que professionnel du patrimoine et professionnel de la médiation, c'est de faire vivre ces œuvres. Et je conclurai là-dessus par mon expérience vis-à-vis de Seine-Force. J'avais assisté à la première à Béziers et ça avait été une révélation parce que je retrouvais avec des significations nouvelles, avec une actualisation, avec des liens que l'on n'avait jamais fait, ce qui pour moi était éparpillé dans nos classements finalement absurdes, historiques, par type de discipline, etc. Et que finalement tout ça prenait un sens totalement actualisé, tout en étant authentiquement historique, mais on était bien sur le partage d'un héritage culturel commun, réactualisé dans la société actuelle. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, pour nous, l'inscription dans votre projet modifie considérablement les missions et les actions du CIRDOC. Voilà. Donc un outil qu'on mettra en œuvre pour le collectif, c'est bien sûr le projet Occitanica, donc de grande médiathèque virtuelle de l'héritage culturel dans sa diversité. Et là-dessus, donc, cet outil va vivre une évolution considérable pour devenir une archive ouverte, une archive d'échange de savoir, donc adaptée à vos besoins. Voilà. Donc, je réaffirme évidemment notre soutien et notre intérêt pour ce projet, et puis indirectement aussi celui de la région Languedoc-Roussillon.
Les conférences de Radio Languedoc.
Sylvia Lerang va nous exposer une des utilisations sociales du PCI dans un cadre thérapeutique ici à l'hôpital local de Pézenas.
Oui, bonjour. Donc on va complètement changer d'univers puisque on va parler de malades et de gens qui souffrent. Donc je suis désolée. Donc voilà, je ne suis pas chercheuse, je suis praticienne. Et plus exactement, je suis art-thérapeute. Alors, on va juste évoquer deux, trois mots sur ce qu'est cette discipline. Donc, l'art-thérapie appartient au champ des techniques de soins non médicamenteux. C'est une thérapie qui utilise l'action et la création comme outil de changement et d'expression. Donc, le principal support de l'art-thérapie, c'est ce qu'on appelle le processus créatif. Je vous en dis juste deux mots pour que vous compreniez un peu mon travail. En proposant aux personnes en souffrance de fabriquer, d'entrer en création, nous leur permettons de circuler à travers un processus qui les fait partir d'un point A, qui est un point très intime, très émotionnel. Je souffre, j'ai un désir. Et à partir de ce point-là, nous allons les conduire comme sur le chemin que tout artiste emprunte, c'est-à-dire je me mets en action pour réaliser ce désir, donc je me mets à écrire ou peindre ou fabriquer quelque chose ou à chanter, et j'obtiens quelque chose, donc c'est la troisième étape, et ce quelque chose, je vais l'amener vers le public, je vais prendre le risque de la relation. Et c'est dans cette relation que je vais obtenir de nouvelles émotions qui vont me faire revenir au point numéro un. Donc ce processus créatif, c'est en fait un processus humain qu'on peut utiliser, qu'on peut repérer dans tous les aspects de notre vie. Donc l'intérêt d'utiliser l'art-thérapie avec des personnes en souffrance, eh bien, effectivement, c'est de les aider à fluidifier cette attitude humaine qui nous met en action. Voilà. Donc le deuxième outil de l'art-thérapie, en tout cas pour moi, c'est un outil très important, c'est le rituel. Alors, je sais pas trop bien l'expliquer, mais je le sens comme ça, donc peut-être les chercheurs pourront l'expliquer. Aux origines de l'art, je crois qu'il y a du soin, tout simplement, hein, c'est-à-dire le chaman utilise des objets qui ne sont pas des objets d'art, mais qui sont des objets, tambours, masques, pour entrer dans le monde des esprits et apaiser la personne qui souffre. Donc, forcément, collé à l'idée de la création artistique, il y a quelque chose de l'ordre du soin. Alors ça ne veut pas dire que l'art soigne, il n'y a qu'à voir certains d'entre nous pour savoir que ce n'est pas toujours le cas, mais le processus artistique utilisé en art-thérapie a cette ambition-là. Voilà. Alors, maintenant, pour aborder la question centrale qui nous occupe, pourquoi utiliser le patrimoine culturel immatériel en art-thérapie? Quel en est l'intérêt? Alors déjà, vous dire que en art-thérapie, on utilise tous les domaines artistiques, hein, que ce soit les arts vivants ou les arts plastiques, mais aussi tous les répertoires, tous les sujets. Ce sont les pathologies qui dictent la nécessité des sujets. Alors, le PCI nous offre en fait des thématiques très très précieuses. D'une part parce que ce sont des thématiques populaires, c'est-à-dire que ce sont des thématiques que les personnes ont rencontrées dans leur vie, et la plupart du temps des thématiques qui les mettent en relation avec l'histoire de leur famille, puisque à travers Carnaval, Nadal, toutes sortes de thématiques appartenant au patrimoine culturel immatériel, on retrouve des évocations autobiographiques, des histoires qui nous sont arrivées. Alors, l'autre intérêt du PCI en art-thérapie, c'est que comme vous l'avez compris, enfin j'espère, dans la présentation que je vous ai faite du processus artistique que nous utilisons en art-thérapie, eh bien, il y a quelque chose dans le patrimoine culturel immatériel qui fait une passerelle entre l'intime et le social. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la pratique culturelle patrimoniale appartient à la communauté. Donc, lorsque nous utilisons ces thématiques-là, nous sommes sans arrêt en train de faire des allers-retours entre je, moi qui souffre, et la communauté qui vit telle et telle chose, qui manifeste telle et telle chose dans son chant, dans son rituel festif. Alors, je vais vous parler de deux expériences, deux lieux d'expérience ici à Pézenas. Donc, il y a deux lieux de soins importants ici. Le premier que j'aborderai, que je vous présenterai, c'est le centre psychothérapique de jour. Donc, c'est un hôpital de jour qui est rattaché administrativement à l'hôpital central de Béziers. Et dans cet hôpital, on accueille des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Alors, parmi ces personnes, il peut y avoir des déficients mentaux, mais ils ne sont pas majoritaires. Il y a des gens, j'allais dire, comme vous et moi, qui, à un moment donné, ont laissé apparaître dans leur fonctionnement des troubles de l'identité. Ce qui donne lieu à ce qu'on appelle des maladies psychotiques ou narcissiques. C'est-à-dire, on les caractérise par une perte du sentiment de continuité de sa propre existence. Alors, c'est très difficile d'imaginer un truc comme ça quand on l'a pas vécu. Je vais juste vous raconter une anecdote pour vous donner une image sur ce que ça peut donner. Lors d'un atelier de fabrication et de jeu de masques avec un jeune malade psychotique, il faut savoir que dans un hôpital de jour, il n'y a que des gens stabilisés, bien sûr, hein, c'est-à-dire il leur est arrivé de faire des séjours d'enfermement parce que leur état ne leur permettait pas de vivre avec tout le monde. Mais lorsqu'ils sont en hôpital de jour, ces personnes vivent à domicile. Donc ce jeune schizophrène, c'était un schizophrène, lorsqu'il met le masque pour la première fois, je vois bien qu'il est gêné par le masque. Il l'enlève sans arrêt, il le met à peine, il le pose sur le front sans arrêt. Et à un moment donné, c'est plus fort que lui, il court vers un miroir et je le suis pour voir ce qui se passe, puisque je suis à ce moment-là en étude, donc j'essaie de comprendre ce qui se passe dans mes ateliers. Et il est face au miroir et il retire le masque très rapidement pour voir s'il est toujours dessous. Donc il remet le masque, il se voit à travers les yeux du masque, enfin il voit le masque dans le miroir, et donc il perd l'idée de lui-même. Donc vite il enlève le masque pour voir s'il n'a pas disparu, et il est très très inquiet, il a le regard vraiment très en panique, quoi. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous montre aussi, je fais juste un petit parallèle avec ce que Dominique a dit tout à l'heure par rapport au regard de celui qu'on habille en ours, hein, comment effectivement porter un masque n'est pas anodin. Pour tous ceux qui l'ont fait ici pour Carnaval ou autre, on sait que sans parler de trans ou de choses très compliquées, ben, tout simplement on n'est plus nous, on est le masque. On peut donc comprendre que quelqu'un qui est en difficulté identitaire, en fragilité de personnalité, eh bien ce moi à l'intérieur ne résiste pas au masque, il se dissout. Voilà, donc ces deux lieux de soins sont, je le disais en premier point, le centre psychothérapique de jour qui accueille des malades psychiques, et le deuxième, que nous verrons après, c'est l'hôpital local, donc qui accueille des personnes âgées en grande dépendance. Voilà, donc le premier, voilà, donc à Pézenas, nous avons, pour ceux qui ne sont pas d'ici, beaucoup de chance parce que nous avons nos rituels de fêtes de saison, donc des fêtes de passage qui nous permettent de passer d'une saison à une autre. Je vous présente ça seulement pour que vous compreniez ce que nous faisons avec les personnes malades à l'intérieur de ces fêtes de saison. Donc vous avez dans les 5 premières photos, donc là c'est la sortie des femmes sauvages pour la Saint-Blaise. Là vous pouvez voir que ces fêtes de saison, ce sont des fêtes qui rassemblent des personnes extrêmement différentes, juste la photo précédente. On peut voir dans la photo précédente qu'il y a effectivement des enfants, des écoles, enfin des groupes constitués qui participent à la fête, qui constituent la fête. En fait, cette fête, c'est un spectacle déambulatoire, mais c'est surtout un rituel laïque, un rituel festif qui permet à tous ces gens de passer le cycle saisonnier ensemble. Donc ces fêtes sont organisées par le Théâtre des Origines à Pézenas, ce qui est très important dans le travail que proposent les trois personnes qui mènent ce théâtre, c'est qu'elles rassemblent dans les temporades, on appelle ça les temporades, c'est ici, tous ces groupes d'appartenance différents du corps social. Donc, je le disais, des écoles, des associations artistiques ou associations sociales ou médico-sociales et des institutions de soins. Voilà, donc ces personnes arrivent à produire ce qu'elles produisent parce qu'elles sont encadrées par des professionnels. Donc on peut voir les photos suivantes où effectivement on voit que les artistes professionnels mènent la danse en quelque sorte avec le Théâtre des Origines comme pivot. Des tas de gens qui sont invités. Là c'est Martroir 2012. C'est la dernière, je crois. Donc voilà, c'est la dernière. Donc, ce sont les artistes professionnels qui assurent vraiment la structure et tous les groupes qui fonctionnent autour. Pour vous donner un ordre d'idée, on va environ jusqu'à une soixantaine de bénévoles qui participent au spectacle. Hein. Donc, c'est très important. Donc, c'est à l'intérieur de ces temporades que j'ai la chance de travailler avec le centre de jour psychothérapique, donc avec les personnes en souffrance psychique. On va pouvoir regarder la photo suivante. Donc voilà le genre d'intervention que nous avons pu faire. Nous sommes donc à la fête de la Saint-Jean, donc qui est la fête du passage du printemps à l'été. Donc là aussi, j'étais très intéressée par ce que Dominique disait tout à l'heure par rapport aux feuillus, qui serait une sorte de pendant des hommes sauvages du printemps, parce que ça aussi c'est intéressant dans le PCI, parce que les choses se manifestent toutes seules. En fait, lorsque nous avons décidé de faire ces personnages en pétassou vert, les patients du groupe ont dit il faut qu'on se trouve un nom, et ils se sont appelés les farfelus, parce qu'on les trouve souvent farfelus puisqu'ils sont malades et quelquefois ont des comportements qui ne sont pas socialement acceptés ou acceptables, et donc ils ont trouvé ce mot farfelu. Donc ça m'a fait sourire quand tu as parlé de ça. Donc c'est un rituel, ils ont inventé avec moi donc un rituel de soins. Donc c'était les soi-disant fous qui soignaient les normopathes dans les rues de Pézenas. Donc la fête de la Saint-Jean est dédiée aux soins du corps du corps et de l'âme, hein, puisqu'on recueille, on cueille les plantes de Saint-Jean qui sont des plantes de guérison. Et donc là, on peut montrer les autres photos. C'est donc le groupe de patients et d'infirmiers, hein, puisque tout le monde est ensemble, qui soigne les gens de la rue, un par un, à travers un rituel inventé par nous, bien sûr, avec les herbes de Saint-Jean. Alors, qu'est-ce qu'apporte ce travail à ces personnes et ces thématiques des fêtes de saison, des thématiques du patrimoine culturel immatériel? C'est d'abord un repère temporel. Alors quand je vous parlais tout à l'heure des pathologies narcissiques et psychotiques, en disant que le sentiment de continuité de soi était troublé, il en va de... Ça a une grande conséquence sur la perception du temps et de l'espace. Donc ce sont des personnes qui souffrent de grandes désorientations dans le temps et dans l'espace. Et donc effectivement, travailler sur des fêtes de passage rituelles saisonnières, on comprend bien que c'est un repère temporel très 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 fort, quoi. Donc pendant un certain nombre de séances, qui durent quelquefois un mois, deux mois, selon les budgets que nous trouvons, ce travail scande la régularité du temps et la survenue annuelle de cette même saison dans laquelle les malades vont se réinscrire, évidemment scande le temps qui circule. À ce propos, Je vais vous lire juste un mot qu'un malade avait dit en bilan. Il avait dit « La roue du temps qui tourne inlassablement, c'est un cercle, le temps. Avant, je me sentais dans la ligne, pas circulaire. La ligne, c'est l'inconnu. Tout droit devant, au bout, on tombe. Maintenant, je me sens plus en rond. Je me sens plus circulaire. » Alors, il y a le vécu spatial, bien sûr, parce que Dr Bloch, qui a constitué ce lieu de soins, dirait certains d'entre nous, pour dire les malades, il est toujours très très respectueux de la pathologie et de la souffrance, donc certains d'entre nous, qui sont ces gens-là, occupent quelquefois l'espace public de façon tout à fait inadaptée. Donc ce sont des gens qui peuvent souffrir de déambulation, mais aussi qui ont des hallucinations et qui peuvent donc avoir ce qu'on appelle, nous, des crises, hein, donc des moments d'angoisse terribles dans l'espace public. Et donc là, ce qu'apporte ce genre de travail, c'est évidemment un vécu à l'intérieur de la cité d'un tout autre ordre. Puisque grâce au patrimoine culturel immatériel, donc les temporanes, ils passent d'une déliaison sociale, ce sont des gens rejetés, ce sont des gens qui se marginalisent, qui s'enferment, qui se cachent. Ils passent de cette position-là à une expérience sociale valorisante, donc ça c'est quand même très très fort. Donc là, c'est la photo numéro 9, ouais. Donc on les voit à Saint-Jean l'année dernière, donc toujours sur la thématique du soin, vous comprenez que c'est une thématique qui nous plaît beaucoup. Donc c'était les médecins de Molière dans les rues de Pézenas en train de prescrire des tas d'ordonnances loufoques aux Picénois, toujours pendant les fêtes de Saint-Jean. Donc de cette stigmatisation de malades ou de handicapés, ils changent le regard que l'on porte sur eux. Ils arrivent à créer des contacts avec des personnes, pour regarder la photo d'après. Alors là, on a vraiment le lieu central de la liaison sociale, c'est ce qu'on appelle le catering, hein, donc c'est le repas des artistes au milieu du public avant le spectacle, où les patients et les infirmiers sont là, comme tous les artistes, à manger ensemble. Donc ce sont des moments vraiment d'expérience sociale très très fortes. Ce qui est très intéressant aussi dans ce genre de pratique, c'est que ça nous permet de combattre l'inertie de la maladie. Ce genre de maladie, ce sont des maladies qui cristallisent les personnes dans une sorte de morbidité, de paralysie, d'inertie, ils ne font plus rien. Une malade disait à ce propos, je n'avais pas envie de venir, parce que d'habitude je fais la sieste. Alors on peut le voir, nous, de l'air de dire, à laver la cagne, mais non, c'est des moments de mise à l'abri, quoi, du monde. Or, dans ce genre de journée, il se trouve non seulement dans le monde, mais dans le monde à une place valorisée d'artiste. Voilà, donc ce qu'on peut dire en résumé de cette première expérience, on peut regarder les photos jusqu'à la photo numéro 13. Voilà, donc toujours le soin, les prescriptions des fous chez les normopathes. Donc là, nous voyons la danse, hein, juste une petite anecdote. La veille de la première intervention lors d'une fête de Saint-Jean, on répétait notre rituel de soins et j'étais absolument démoralisée parce qu'on avait travaillé pendant 3 mois et c'était tout prêt, il y avait un gros enjeu, on nous attendait vraiment pour avoir cette première expérience. Et les malades se traînaient d'une chaise à l'autre en me disant « Sylvie, c'est fatigant ». Donc je me suis dit « c'est foutu, de toute façon, il se passera rien, on n'arrivera même pas à arriver jusqu'à la place centrale ». Tant pis, j'ai lâché en disant « on aura au moins vécu ce qu'on a vécu là », c'est-à-dire la création de l'objet en question. Et en fait, je disais à tout le monde, ce soir-là, c'est comme si une grande main était venue nous prendre sous les fesses, nous avait amené dans la fête pendant 2 heures, alors que ces gens sont incapables de marcher 100 mètres. Ils ont marché 2 heures et demie. Alors évidemment, c'est très compliqué, il faut retarder les traitements du soir pour pas qu'ils soient assommés, enfin bon, tout ça. Mais c'est très très surprenant, parce que cette dynamique qui vient, on ne sait pas trop d'où, hein, est capable de mettre en mouvement des personnes extrêmement en difficulté de mouvement. Voilà, là on voit une personne, un malade établir une relation avec un cafetier de la ville. Et c'est très très intéressant de voir cette photo parce que on peut comprendre que après ce genre de rituel, les patients vivent en ville, donc ils peuvent circuler à nouveau dans des espaces qui là sont redevenus quotidiens, mais ils peuvent retrouver les personnes qu'ils ont croisées, qui deviennent des personnes ressources. Le cafetier du coin, la personne qui vend des tisanes ou des confettis. Juste en conclusion, pour cette expérience-là, dire que, comme tout atelier d'art-thérapie, on propose aux personnes qui créent de se recréer elles-mêmes. Donc là, on est vraiment dans la question de la catharsis, c'est-à-dire que quand on fabrique quelque chose, quand on fabrique un objet artistique, peut-être même un objet artisanal, on investit tellement de choses émotionnellement et tellement d'attention dans ce qu'on est en train de fabriquer, qu'en fait, entre guillemets, on s'identifie à cet objet, et quand cet objet est réussi et qu'il est beau, eh bien, on en retire le bénéfice de sa beauté. À ce propos, juste, je sais plus où je l'ai mis. Ah oui, voilà, une malade qui disait, ça aide dans notre thérapie, car ça nous prouve qu'on est capable de faire des choses. On se bat pour la guérison, pour ne pas s'effondrer. Donc voilà, l'objet créé a un effet miroir de beauté et de valeur sur lui-même. Donc le processus de l'art-thérapie est toujours donc de proposer cette recréation à travers la création, mais la grande différence lorsqu'on utilise une thématique du PCI, c'est que c'est un processus qui est démultiplié en quelque sorte par la dynamique sociale qu'il y a derrière, comme je le disais, cette passerelle incessante que l'on fait entre l'intimité et le rapport à la communauté. Voilà, donc la deuxième expérience a lieu à l'hôpital local. Là, on part dans un autre, tout à fait un autre milieu, puisqu'on est auprès des personnes âgées en grande dépendance. Il s'agit donc d'une maison de retraite médicalisée et d'autres services d'accueil de personnes âgées souffrant de maladies d'Alzheimer et de démence. Hein, donc ce sont des troubles neurologiques dus à la vieillesse. Donc, depuis 2011... j'ai la chance de travailler dans cet hôpital public en tant qu'art-thérapeute. Malheureusement, très peu de temps dans la semaine, mais bon, c'est déjà un grand début. Nous avons mené deux projets avec les thématiques du PCI. Le premier projet, c'était en 2011, ça a commencé en 2011. C'était un projet autour de Nadal, donc Noël. Il s'agissait donc pour des personnes malades avec la maladie d'Alzheimer, donc tout le monde entend parler de cette maladie. C'est une maladie qui trouble en premier lieu les espaces amnésiques, donc la mémoire, les repères spatio-temporels, et toutes les fonctions petit à petit se dégradent, à commencer par les fonctions exécutives, c'est-à-dire les capacités de planifier ce qu'on doit faire. Donc ces personnes viennent quotidiennement dans cet hôpital de jour, cet accueil de jour, pour recevoir leurs soins sous forme d'activités et d'ateliers. Donc nous avons construit le projet de leur proposer de fabriquer des sculptures, donc environ de 40 cm, qui les représenteraient elles-mêmes, pour fabriquer ce qu'on a appelé une pastorale, pour qu'il n'y ait pas, on est dans un hôpital public, qu'il n'y ait pas de connotation religieuse. En fait, l'idée, c'est la crèche. La crèche, dans le sens pas du tout de la nativité, mais dans le sens de la communauté se représente. Donc, chacun fabriquant son propre sujet et se représentant lui-même, on est arrivé à la fin à un objet représentant les malades dans la communauté, qu'ils forment au milieu des autres. On peut regarder les deux photos suivantes. Donc on peut voir, donc ce sont des sculptures qui représentent des actions. Hein, ce sont des personnes très âgées là, qui ne bougeaient plus du tout, donc qui se représentent en train de faire du vélo ou en train de danser. Et c'est un projet qui a été intergénérationnel. Donc nous avons mené le même travail avec des enfants dans une classe de Pézenas, et les enfants et les personnes âgées se sont rencontrés avec toutes leurs pépettes, et pour créer la pastorale. Donc ça faisait une grande sculpture d'une cinquantaine de pièces. Donc le deuxième projet qui est mené à cet accueil de jour, et on est sur le point de le terminer, parce que c'est un projet autour de carnaval, pour regarder la photo suivante. Donc toujours à l'accueil de jour, c'est la fabrication d'une pépette de carnaval, pour voir la photo suivante. Donc là, ce sont deux personnes qui sont relativement jeunes, mais qui sont atteintes de la maladie, qui ont à peu près 75 ans, qui sont en train de peindre le bonhomme qu'ils ont fabriqué pour les enfants d'une classe de la ville, qui va venir donc la semaine prochaine juger et brûler ce carnaval. Donc, quel est l'intérêt pour ces personnes âgées de travailler avec les thématiques du PCI ? Ben, encore une fois, on retrouve des éléments autobiographiques, puisque à l'occasion de la création de la pastorale, à l'occasion de la fabrication de carnaval, et bien évidemment, on se souvient de ce qu'on faisait quand on était plus jeune ou quand on était enfant. Donc, les personnes âgées se mettent à raconter leurs souvenirs d'enfants ou d'adultes. Il faut savoir que dans les pathologies comme la maladie d'Alzheimer, le déclin de la mémoire est appelé, on le nomme rétrograde, hein, donc c'est les souvenirs les plus récents qui s'effacent en premier. Donc les souvenirs anciens et tous les souvenirs émotionnels liés à l'affectivité de la petite enfance restent très très longtemps présents, même si la parole est partie. Donc il est très important de stimuler toute la mémoire qui est encore à disposition pour essayer d'enrayer ce déclin. Donc ces éléments autobiographiques évidemment nous permettent de combattre les troubles amnésiques, mais aussi ils donnent des repères spatio-temporaux, puisque on répète sans arrêt que on va faire carnaval, que ça va être le printemps, que des enfants vont venir. Donc tout est prétexte à rappeler la situation du temps et de l'espace, alors que dans un atelier classique, vous pouvez pas dire toutes les 3 minutes à la personne on est jeudi et demain on sera vendredi, parce qu'en fait elle l'oublie tout de suite. Mais là, on en parle sans arrêt, puisqu'on est en train de fabriquer quelque chose pour marquer le temps. Donc là aussi, c'est vraiment un repère très important. Alors ça nous permet de soutenir les capacités d'orientation. Ça nous permet aussi de motiver la création, parce que j'aime autant vous dire que la plupart du temps, ils nous disent « J'ai travaillé toute ma vie, vous n'allez pas encore me faire travailler ». Mais par contre, lorsqu'il s'agit de travailler sur Noël ou sur Carnaval et qu'on se souvienne de vieilles chansons ou d'anecdotes qui nous font rire ou de choses comme ça, alors là, on est à fond, quoi. Et si même la personne ne peut plus manipuler parce que ses capacités motrices sont complètement détruites, elle n'a plus du tout le contrôle de ses mains, eh bien, elle va quand même créer à travers mes mains, par exemple, en me disant plus grande la robe, plus haut le bras, et c'est elle qui va quand même fabriquer son objet. Donc, ça nous permet évidemment, vous l'avez compris, d'exprimer des émotions, hein, puisque c'est très très touchant émotionnellement pour ces personnes-là. Évidemment, ça nous permet donc de soulager des troubles psychologiques, hein, donc des phases dépressives, des moments extrêmement pénibles pour les personnes âgées et peuvent être élaborés au cours de ce travail. Et puis évidemment, eh bien, encore une fois, c'est l'objet le plus important de notre travail, c'est éviter la désocialisation, puisque les personnes âgées dans les institutions se replient sur elles-mêmes et perdent ce lien avec le monde extérieur. Et grâce à ce genre de thématique, nous avons accès au monde extérieur pour le faire venir à l'intérieur. Et donc, on redonne aux personnes âgées dépendantes leur fonction de transmetteur, puisque ils peuvent, par exemple, fabriquer la pépette de carnaval pour les enfants, ou ils peuvent préparer le goûter, ou ils peuvent raconter des histoires, ou comment c'était Noël quand j'étais petit. Donc on les remet à leur place de transmetteurs, et évidemment on stimule les capacités relationnelles pour combattre la désocialisation. Voilà. Alors j'en viens au dernier projet, qui est le projet... deux minutes, oui. C'est le dernier projet... C'est celui que nous avons commencé il y a 2 semaines avec le photoclub de Pézenas. Donc Louis Combel est dans la salle, je le remercie encore, je profite qu'il soit là pour le remercier publiquement. Donc le photoclub a hérité de 2000 plaques de verre qui sont les anciens supports des photos, comme on dit, négatifs des photos, voilà. Et donc ce sont des photos qui datent de 1936 à 1954. Donc Louis a eu la patience de scanner une à une toutes ces photos, de les restaurer. Et aujourd'hui, alors évidemment ce sont des photos prises par un grand photographe de la ville qui a photographié tout à Pézenas, toute sa vie. Donc toutes les fêtes de saison, tous les carnavals, toutes les fêtes de jardinier, voilà. Et donc évidemment c'est un trésor pour nous. Vu ce que je vous ai expliqué sur le déclin rétrograde de la mémoire, nous sommes en train en ce moment de diffuser dans les services de l'hôpital, grâce à Louis qui intervient bénévolement, service par service, petit groupe par petit groupe, 5, 8 personnes maximum. On présente des sélections de photos qui nous semblent pouvoir correspondre à ce que les personnes ont besoin de voir. Et les personnes âgées parlent sur les photos, nous expliquent de quoi il s'agit. Parce qu'il y a aussi beaucoup de photos dont nous ignorons et la date et le contenu. Donc elles sont remises à une place encore une fois de une place sociale importante. Elles sont utiles, mais c'est pas du bluff quoi. On a vraiment besoin qu'elles nous disent qu'est-ce qui se passe sur la photo parce que quelquefois on est démunis complètement. Voilà. Donc juste pour dire, mais enfin les représentants du ministère n'étant pas là, c'est un peu dommage, mais pour dire que ce projet a fait l'objet d'une réponse à un appel à projet de l'ARS, qui est l'Agence régionale de la santé et de la DRAC, pour le thème de culture à l'hôpital. Et nous attendons encore de savoir si nous sommes sélectionnés pour obtenir les financements d'aboutir notre projet, qui sera la fabrication d'un livre et d'un DVD qui relateront l'expérience en même temps qu'elle relate les photos. Voilà, merci.
Voilà, peut-être si quelqu'un veut intervenir sur ces éléments très forts de sociabilité du patrimoine culturel immatériel, dont on peut voir ici vraiment l'efficience en termes de reconstruction. Enfin, voilà, on a ici affaire à un témoignage particulièrement fort et qui nous était très bien retranscrit, mais avec une efficience extrêmement marquée, c'est rare. Voilà, il y a certainement des praticiens parmi vous qui ont des échos dans leur...
Oui, bonjour, Anne Soula de l'Institut d'études occitanes du Cantal. Moi, je voulais juste simplement faire part d'une expérience qu'on mène depuis quelques années dans le Cantal, qui s'appelle Ribiscoula. Ce sont les bénévoles de l'Institut d'études occitanes qui vont dans les maisons de retraite, justement animer des ateliers de parole en langue occitane auprès des personnes âgées, notamment des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et on s'est rendu compte, nous aussi, que l'utilisation de la langue régionale permettait de stimuler la mémoire, puisque c'est la langue maternelle, ils y sont vraiment attachés. Et des personnes qui étaient totalement coupées de la réalité de la maison de retraite, ou même des soins, quand on leur parlait occitan, du coup, s'exprimaient. Regarder ne serait-ce que le personnel soignant, discuter avec lui en occitan, et le personnel soignant nous a indiqué que quand ils étaient stressés et qu'ils ne voulaient pas accéder aux soins, ils commençaient à leur parler occitan et ça les détendait et ils acceptaient les soins. Donc ça fait maintenant depuis 2 ans que le personnel de l'hôpital de Murat dans le Cantal a demandé une formation en occitan, justement pour pouvoir discuter avec les malades et notamment les personnes qui sont dans le volet maison de retraite et je crois qu'il y a aussi un volet justement un service accueillant les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, on est loin, nous, de l'art, on est plutôt dans la langue, mais c'est vrai que c'est l'utilisation, tout simplement, de ce patrimoine culturel qui nous a permis, nous aussi, d'accéder à ces personnes qui sont en souffrance et qui, finalement, s'ouvrent grâce à l'occitan.
Oui, merci pour votre témoignage. Nous avons le même type d'expérience ici, même si la langue est beaucoup moins implantée que chez vous, et si le brassage de population fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas du tout la langue, donc c'est moins, c'est peut-être moins général que chez vous. Mais effectivement, il y a eu plusieurs expériences, et en tout cas, moi, il m'en est arrivé une de très très belle avec un monsieur qui était complètement mutique et dépressif. Monsieur est nouvellement arrivé en maison de retraite, et le personnel était complètement désemparé, ne sachant pas du tout quoi faire avec lui. Et lors d'un atelier de musicothérapie, que je pratique aussi, je me suis mise à lui parler occitan, à lui chanter en occitan, son regard s'est illuminé, il a commencé à me répondre d'abord tout doucement, petitement, et le personnel soignant était vraiment impressionné, parce qu'effectivement, dans les mois qui ont suivi, ce monsieur est revenu dans la communication, pas verbale, parce qu'il l'avait perdu, mais en tout cas, ça lui a permis de revenir dans la communication, dans l'échange avec le personnel soignant. Il a changé du tout au tout.
À cause de la première partie de las interventions réalisées à Pézenas, le 17 et 12 février de 2013, dans l'encastre du séminaire organisé par le collectif Patrimoine et Création sur la thématique du patrimoine culturel immatériel, en partenariat avec le CIRDOC.